RMC.
Ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc.
J'espère que la roue tourne va vite tourner.
Le Super Football Show.
Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, After est là jusqu'à minuit en direct. Comme tous les soirs, bien sûr, nous sommes sur RMC, nous sommes sur BFM Sport, sur rmcsport.fr, l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Avec l'équipe du jeudi soir, emmenée par Jérôme Rantel. Évidemment, Jérôme, bonsoir.
Salut Gilbert, je veux dire bonsoir les amis.
C'est Daniel Riolo est là également, salut Daniel.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir.
Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas, j'avais envie d'imiter Daniel Riolo aujourd'hui.
Très bien. L'after avec les avis tranchés comme tous les soirs. Jérôme veut parler de Monaco, Daniel veut parler de Marseille. Et moi, je vais vous parler du tirage au sort de la Coupe du Monde demain à Moscou.
Déjà bah, pourquoi tu veux anticiper
dame.
Bon, jackpot,
qu'est-ce que tu vas dire demain?
Ouais.
T'inquiète pas.
T'es là-bas, toi?
Je suis là, je suis.
Parce que hey, demain. De...
Ah, t'es en coulisses?
Je suis en backup.
Attends, ah, ouais. En backup. Ouais, parce que demain.
Ah, tu vas tout donner ce soir, en fait.
Demain, tout le monde est sur le pont. Pas de repos du vendredi demain.
Demain, ouais, émission spéciale sur RMC, 16h minuit, tout Super Football Show, tous au taquet. Mm. Et histoire de faire un truc vraiment sympa, on a ramené El Hadji Diouf. Il sera là demain. Il va commenter le tirage, le France-Sénégal, la revanche, tout ça.
Voilà.
Ah bah oui, le vrai, El Hadji Diouf.
Mais tu peux le mettre tout seul. Hein. Et lui, il tient 7h l'antenne. Je te dis.
Mais pourquoi t'as pas retrouvé le buteur de ce fameux match?
Pape Bouba Diop.
Exactement. C'est lui qu'il fallait retrouver.
Bah, il était pas à Paris, Pape Bouba Diop.
Je sais pas. Après, il était allé à Fulham.
Exact.
Mais la suite.
Il était à Lens à l'époque.
Ouais, ouais. Exact. Mmh. Il était à Lens.
Bon, ah, et puis
lui était impressionnant, je t'annonce. Là, parce que moi, j'ai joué contre lui.
Ouais, il a pas fait long feu, le pauvre.
Oui, oui, mais.
Ouais, il a fait sa petite carrière.
Déjà, et puis c'était un rogue, vraiment.
Ah, bah oui.
Des cuisseaux, écoute.
Ouais. Bah, je rappelle quand même que les deux qui se font passer par les Sénégalais derrière, vous vous souvenez qui c'est quand même?
Il y a Franck Leboeuf dedans.
Manu Petit d'abord,
ouais.
Manu Petit sur le côté, Franck Leboeuf. Ouais. Les deux qui sont dans notre Dream Team
Manu,
aujourd'hui.
C'est encore son cauchemar aujourd'hui. Ce match-là, il l'a jamais digéré.
Ouais, et puis les deux, ils étaient cramés, moisis, quoi.
Qui ça
Ah, les deux, là. Francky et Manu.
Je sais pas, écoute, Manu doit pas être loin, on va lui demander s'il était bouilli.
Bon, il était bouilli, de toute façon, tu le vois quand il monte les marches, il est bouilli.
Alors, Pape Bouba Diop, il avait joué en Suisse avant d'arriver à Lens. Ensuite, il a fait Fulham, Portsmouth, l'AEK Athènes et West Ham. C'est pas mal.
Ouais.
Écoute. Il a fait une petite carrière et il est arrêté en 2013.
C'est quoi, c'est marrant parce que je me disais bien que j'ai failli signer à l'AEK Athènes.
Ah bon?
Ouais.
Ah bah, je savais pas ça.
Ah ouais,
première nouvelle.
Visiter les installations.
Non mais.
Bah, quand mais tu es en Turquie, là, c'est dit tiens, la Grèce, c'est juste avant, je vais voir s'il y a pas, gars, si je peux pas m'arrêter.
C'est à peu près ça, voilà. Et je suis allé visiter les installations parce que le contrat était très sympa. La base était très sympa. Je suis allé, visite médicale, hein. Déjà, les termes du contrat, c'était pas exactement ce qu'on avait vu, donc déjà, ça me plaisait pas.
Ça avait bougé dans l'avion?
Ouais, ça avait bien bougé même. Et les agents, c'était bien rincé, tu vois, tous là. Et il voulait absolument que je signe, tu vois. Et après, j'ai rencontré les joueurs, donc forcément. Et donc, Diop, il y avait, il y en avait deux, trois que je connaissais. Il y avait celui qui a été à l'Olympiakos après l'attaquant, je sais plus.
Mais trop
bleu. Non. Et les mecs me disent, bon, méfie-toi parce que fait 3 mois qu'on n'est pas payé. Je dis, ok,
en Grèce, bon. C'est
arrivé, on va attendre un peu. Alors j'ai repris l'avion et puis
voilà. En Turquie, ça banque non bien quoi.
Bah en Turquie, ouais, c'est
il paye, quoi,
les sacs ouais. Tout de suite.
Bah les sacs.
Les sacs.
Quoi les sacs?
Bah, les sacs.
Les sacs de liquide.
Bah,
les sacs de cash.
Bah de toute façon, c'est du net là-bas. Il y a pas d'impôt.
Et qu'est-ce que tu fais avec tous les billets comme ça?
Ah franchement, il y a des anecdotes là-dessus, c'est exceptionnel.
Non mais c'est chaud avec tous les billets. Comment tu fais?
Bah, tu sais, quand ils veulent pas te payer, moi je mettais un coup de pression parce que sinon je me cassais.
Avec les sacs de sport, avec les billets dedans, c'est pas facile après pour revenir en France avec.
Bah non, mais non, ça transite par les banques quand même.
Après, tu prends le cash et tu vas le déposer à la banque.
Mais tu peux pas transférer.
Ah, je pensais que tu vivais au quotidien avec le cash.
Non, mais ils sont trop malins, ils te les filent au centre d'entraînement et puis après c'est à toi de le mettre à la banque. Non. Moi j'ai jamais fait ça. J'ai dit, vous venez, les dirigeants, vous venez, vous me les déposez à la banque et je compterai à la banque. Parce que là ils sont trop faciles. Au feu rouge, sorti du stade, ils te braquent, ils te prennent les trucs, tu fais quoi? Ah mais non, on t'a donné, hein. Ah ouais.
Ah oui, tu veux dire le mec, il vient de braquer au feu rouge, puis il retourne au club, puis il donne un autre joueur.
Exactement, tiens, toi t'es payé aussi. Ah là là.
Bon, c'est jamais arrivé ça quand même.
Non, moi, je sais, tu sais, il y en a plein qui vont raconter des histoires. En tout cas, ils ont été...
Qu'est-ce que tu faisais avec tes billets? Tu vivais...
Ah, c'était... J'étais plus mieux que le président de la République encore.
C'est n'importe quoi.
Attends.
Bon alors, je continue.
Que nous, les deux mallettes du Qatar qu'on a depuis 4 ans, on n'y a pas touché. Elles sont à la maison, on n'ose pas utiliser le blé qu'il y a dedans. Ouais.
Elles sont planquées où là?
Bah je sais pas, on a ça, tu nous avais filé une mallette chacun parce qu'on a fait la promo de la Coupe du Monde au Qatar. Et voilà.
Daniel, il a planqué ça au bois de Boulogne. En fait, c'est
un trou.
Il a fait un trou, c'est le seul à savoir où c'est. Ouais. Il a fait des encoches dans les arbres.
Ouais. Maintenant, les arbres.
Quelques emplâtres là-bas.
Bon, on aura également le foot européen, comme tous les soirs, avec l'Italie et l'Angleterre ce soir au programme. After Story. Et ce soir, on va vous raconter un truc incroyable, la vraie histoire du jackpot, messieurs, dames. Ouais. Vous allez voir, petite surprise tout à l'heure. Et puis
est-ce
le
que
quiz...
tu penses que je vais apprendre un truc que je sais pas sur cette histoire?
Ah, peut-être. Il y a peut-être des trucs que t'as oublié. Tu verras, parce qu'on s'est replongé là-dedans. Et je dois dire que c'est en fait assez drôle quand même.
Mais je sais pas si j'étais là.
Non, je crois que t'étais pas là.
Ce soir-là, je crois que je suis pas là pour le tirage au sort.
T'étais pas là. Je confirme.
Je l'entends, je suis pas là. C'est vrai.
C'était quoi? C'est sur la Coupe du Monde.
Ouais, tirage au sort de la Coupe du Monde 2010 et décembre 2009. Ouais.
Il y avait Ramayad qui était là.
Ah oui, d'accord, oui, ça je me souviens. Oui. Je me souviens d'une ou deux histoires à ce sujet.
Il y aura le quiz à 23h40. Alors attention, on a grosse dotation dans le quiz. Déjà, on a les petits bouquins. Wow. Les légendes du foot qui sont super pour Noël. Ah,
alors ça, c'est extraordinaire.
Alors c'est édité par un pote à nous, enfin un éditeur de l'After célèbre, Albin, qu'on salue, aux éditions Quelle Histoire. Ah, bon, tiens, je vous montre.
Tu sais que ces petits bouquins-là, ça marche très fort dans les écoles pour les gamins.
On vous le fait gagner dans le quiz.
Historiques et tout ça.
Je vois pas ça. Ouais, c'est bien. Tiens,
et en plus, bon, moi, je dois dire, non seulement j'adorais, mais alors. Qu'est-ce que j'ai pas eu comme
quelle
surprise
race, je te le prête.
Bah, il a gagné.
Genre, tu veux pas me le donner. Tu
non, mais j'ai surtout
une... c'est pas le tien celui-là peut-être. Là, il a marqué Gilbert dedans.
Et surtout, j'ai eu une sacrée surprise, c'est qu'il m'a envoyé moi en dessin comme ça.
Oui, moi aussi.
Franchement, c'est un cadeau qui m'a fait vraiment super plaisir. Je l'ai mis en machin sur Twitter là où on voit la photo.
Ah, il t'a fait. En...
Ouais, il m'a fait comme. T'as pas
en
vu
personnage de Bélé.
T'as pas eu ma tronche comme ça?
Mais non.
Ah ouais, je te montre ça tout de suite.
Il est vachement plus beau qu'en vrai.
Je te montre ça tout de suite.
Et puis alors on a aussi un maillot de...
Attendez,
parce que j'ai un autre cadeau, j'ai un maillot de Rennes à gagner dans le quiz, c'est quand même un maillot de Rennes, c'est incroyable.
Mais ça, celui-là, il faut le donner à celui qui perd.
Ah bah non, celui qui gagne.
Bah si, regarde, bah, à Rennes.
Jérôme, regarde.
Rennes,
c'est quand même
trois
maillots qui gagnent quand même.
Hashtag RMC Live, bah ils ont gagné, je te signale. Là, ils ont gagné.
Ah, c'est celui-là que t'as mis sur...
Hashtag RMC Live, 32-16, direct studio, on vous attend pour débattre ensemble. Bien sûr. Le premier avis du soir, c'est celui de Daniel. Jingle Rio.
Oui, alors mon fils ne peut pas jouer 6 parce que mon fils doit jouer un peu plus haut sur le terrain parce qu'éventuellement s'il nous met 5-6 buts dans la saison, on sera content.
Ah, ouais, tu parlais pas de ton fils à toi. Hein.
Non, mon fils joue pas 6.
Avec des cheveux longs.
On parlait de Véro.
Ouais.
Alors, tu voulais parler de l'OM ce soir et on vous attend au 32-16 bien sûr pour réagir à l'avis de Daniel.
Ouais, mais de l'OM avec néanmoins un préambule qui est quand même de penser que chaque année, on se fait quand même un petit peu avoir à essayer de tirer dans des enseignements et à essayer d'envisager la suite d'une saison de Ligue 1. Alors que la Ligue 1, c'est toujours aussi surprenant, c'est toujours la foire à l'inconnu. Et j'en suis arrivé à me dire là que des surprises, j'ai bien l'impression que d'ici la fin de saison, il peut y en avoir et il peut se passer beaucoup de choses assez inattendues. Je vous livre quelques surprises comme ça, là, et vous piochez si vous avez envie, si ça vous plaît, et si ça vous semble plausible. Mais moi, tout me semble plausible. Monaco hors podium.
Plausible.
Le réveil de Bordeaux, qui, un peu comme ils ont fait l'année dernière,
enfin,
font une
tout
énorme...
Tout plausible.
Ouais, bah, c'est pour ça que je te vends pas n'importe quoi. Ouais,
tu vas pas me vendre, tu me vends pas Nice en Coupe d'Europe, par exemple.
Le réveil de Bordeaux qui fait une grosse deuxième
plausible.
Partie de saison après Gourvennec, après des choix forts de Gourvennec, et comme on en a eu un petit vent là l'autre avant-hier soir. Saint-Étienne qui joue le maintien, totalement inattendu mais plausible. Amiens qui termine dans la première partie de tableau, ça ce serait complètement dingue mais pourquoi pas. Et donc l'OM deuxième. Eh ben ça, ce serait fou, l'OM deuxième, parce que ça, franchement, j'aurais pas parié un centime sur l'OM deuxième de cette saison. Je dois bien l'avouer. Il y a eu pas mal de changements, mine de rien, entre le début de saison et aujourd'hui. Et je crois que l'une des meilleures nouvelles, au final, après y avoir bien réfléchi, qui soit arrivée à Marseille, c'est cette histoire Evra. Je pense qu'Evra était un réel poids pour le vestiaire, pour le coach qui devait malgré tout l'utiliser un peu, même s'il commençait à l'utiliser de moins en moins. Mais ça a permis en tout cas une sorte d'émancipation mentale dans le vestiaire de tout le monde. Ça a permis d'abord à Hamavi de devenir un titulaire indiscutable et donc à l'OM de jouer à 4 en défense, puisqu'il jouait quand même à 3 sur la période où Evra était là. Et donc sur cette assise défensive, parce que finalement hein, la charnière c'est bien Rami Rolando, alors que quand le mercato est terminé, on pensait qu'Abdennour jouerait. Et finalement,
le premier match d'Abdennour lui a fait mal.
Dans ce mercato, inégal de l'OM, parce que tout n'a pas été raté quand même. Il y a eu des choses inégales. Abdennour, bon peut-être pas. Hamavi qui arrive, qu'on n'attendait pas, ça marche. Finalement, Abdennour ça marche pas, mais Rolando s'en tire bien avec Rami. Luis Gustavo, bon bah c'est la recrue tombée du ciel. Et donc, l'OM se retrouve deuxième depuis hier.
On oublie souvent que Mandanda aussi est de retour. Hein.
Pourquoi tu dis ça?
Parce que Mandanda, c'est aujourd'hui, les trois piliers pour moi marseillais.
Et de retour qu'il est, il est revenu. Son comeback, j'ai pas compris.
C'est Mandanda, Luis Gustavo et
de son état de forme là. Bien sûr que ça a aussi contribué, mais je pense vraiment que le point névralgique de ce qui s'est passé, c'est le départ d'Evra. Je pense que ça a tranquillisé tout le monde. Il y avait énormément de pression autour de lui, de ce qu'il faisait, de ses shows. Ça mettait une pression sur le club, de ses vidéos. Enfin bon, voilà. Je pense que c'est très bien. Maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, j'arrive pas à croire que l'OM va pouvoir faire deuxième cette saison. Même si il peut y avoir énormément de surprises, mais j'ai du mal à croire que tu puisses finir deuxième sans un attaquant qui te met 15 buts. Et je vois pas comment Mitroglou va pouvoir mettre 15 buts. Les attaquants de pointe de l'OM, ils sont tous un peu en carafe. Germain, ça foire. Clinton ne joue pas. Mitroglou joue. Je vois pas ce qui peut d'un coup faire basculer la tendance pour que ce gars-là finisse avec 15 buts. Autant Gomis était spécialiste de ce genre de choses-là, de mettre les 15 buts dans une année. Lui, j'ai beaucoup plus de doutes. Donc, entre lui, qui me semble être un peu point noir, et Payet, qui est bon dans les petits matchs, mais qui est encore insuffisant dans les matchs un petit peu plus importants. Je me dis que s'il termine deuxième dans ces conditions-là, moi franchement, je vais pas faire de pari un peu ridicule comme on en a déjà fait, mais je serais vraiment très très surpris. Donc voilà, c'est mon avis. Ça veut pas dire qu'ils vont pas être terminés sur le podium, parce que Monaco semble être en dérapage incontrôlé en ce moment. Mais en tout cas, au final, je pense que quoi qu'il en soit, ça fera une saison réussie pour l'OM. Si j'avais dû faire deux avis tranchés en un, c'est saison réussie, mais pas deuxième. Voilà.
Ouais, moi je vois Lyon deuxième. Donc,
ça me semble plus complet à tous les postes. Ouais, Lyon. C'est pour ça.
Exactement.
Et sur le long terme, ça paye toujours.
Si Marseille arrive à être deuxième sans numéro 9, ce serait quand même. Incroyable.
En fait, moi c'est ce qui me rend optimiste pour les Marseillais, parce qu'aujourd'hui, en ayant encore plein d'interrogations dans cette équipe. Dans la façon dont elle évolue sur certains matchs, et moi je l'ai souvent critiqué, alors on m'a souvent reproché, mais franchement souvent je me suis emmerdé en regardant Marseille jouer, et je me disais que sans des exploits individuels de Thauvin entre autres, Marseille ne gagnait pas certains matchs. Là ça va mieux depuis 2-3 matchs quand même. Alors je mets de côté l'Europa League, parce que c'est vraiment un couac sur les matchs à l'extérieur, même si à la fin à Konyaspor ils s'en sortent bien. Je trouve qu'il y a une progression sur Guingamp et Metz dans la façon de jouer, c'est ce que je disais hier, des joueurs qui se sont hissés à un meilleur niveau, donc ça rend le collectif plus fort, des leaders qui s'affirment d'autant plus, Gustavo au milieu de terrain, Thauvin, je viens d'en parler, devant la défense, alors même si elle n'est pas été mis en difficulté contre Guingamp et Metz, ça me paraît logique vu la faiblesse de ces équipes, ils sont quand même assez sereins. Mandanda qui fait sa saison, mine de rien. Et il y a ces points d'interrogation, que ça soit celui qui joue à côté de Gustavo contre les équipes censées être plus faibles que Marseille. Donc, quand c'est plus fort que tu mets Zambo Anguissa, il n'y a pas de problème. Mais après, je pense que tu as besoin d'un bon manieur de ballon à côté de Gustavo aussi. Et t'es capable de l'avoir dans ton effectif. Le cas au Campos, qu'est-ce qu'on fait contre ce genre d'équipe où t'as la balle, où tu dois construire des actions au Campos, il y a trop de déchets pour que ça te fasse encore encore la deuxième partie de saison. Il y a ce, donc ces deux postes pour l'interrogation, et puis le numéro 9. Parce que le numéro 9 aujourd'hui, je veux bien, tout le monde descend Mitroglou. Moi, je suis partagé sur lui. C'est vrai qu'il fait pas un grand début de saison, loin de là. Il y a l'adaptation. Il vient dans un nouveau championnat, même s'il a 29 ans, il est pas obligé de s'adapter tout de suite. Le buteur, on sait comment c'est. Dans un club, t'arrives. Il y a des gros questionnements sur sa façon de jouer, ses qualités techniques, ses trucs. Lui, il le sait, tout ça. En plus, il a du mal sur le terrain parce que physiquement, il est arrivé blessé. Il a du mal à retrouver son niveau physique digne d'un joueur de Champions League. À l'arrivée, il a quand même mis des buts dans sa carrière. Donc moi, je me dis que c'est pas possible, ce joueur-là, il va être mieux. Mais il faut le remettre en confiance. Et qui le remet en confiance dans ces cas-là? Ses coéquipiers. Et Thauvin est en grande partie peut être responsable de ça, parce que lui aussi doit progresser dans la façon de servir son attaquant. Parce que c'est la valeur forte. Payet, on parlait, Daniel. Payet a un meilleur niveau. Il est capable de le servir. Sanson, il est capable aussi de le servir. Et tout ça, peut-être un autre attaquant à côté de lui. Un Germain, par exemple, ça pourrait faire du bien aux deux. Parce que les deux, aujourd'hui, ils ont la tête dans le seau, quand même. Hein, parce que moi, j'entends, ouais, Mitroglou, il faut le retirer, il faut mettre Germain. Mais Germain, il est pareil, il est à la rue aujourd'hui. C'est comme Ngié, c'est la même chose. Les trois attaquants sont dans la merde. Donc aujourd'hui, c'est Garcia qui doit régler tout ça. Et s'il arrive, sur la deuxième partie de saison, à régler ce cas-là, ben moi, franchement, Marseille, oui, pourquoi pas deuxième.
Samba est avec nous au 32-16. Salut Samba.
Oui, bonsoir les gars.
Salut Samba. Samba, Samba, Samba.
Je ne sais pas si tu reconnais, mais hier, Daniel, on a échangé par rapport à... J'avais fait une petite réflexion sur l'analyse que tu avais fait, comme quoi que Marseille, la victoire à Metz, c'était possible par moment. Après, tu as précisé que c'était par moment, mais j'ai bien dit que j'étais pas du tout d'accord.
Ah, mais c'était un échange sur réseau social.
C'est sur Twitter, absolument.
Exactement. Oui, j'ai dit, il y avait une grosse nuance avec Jérôme quand on en parlait. C'était par instant dans le match. Oui.
Ouais, non, moi j'arrête, Daniel. Franchement, on les a pliés, quoi. Mais après,
ah bah ça, oui, évidemment que tu les as pliés.
Ils sont lanterne rouge, ils sont déjà en Ligue 2. Ah bah on va pas se vanter. Les mecs, ils sont à la rue. Bon, maintenant, ouais, je voulais qu'on parle de ton avis tranché. Je suis d'accord en partie avec toi quand tu dis que le fait qu'Evra soit parti, c'est franchement, c'est un cadeau du bon ciel qu'il soit parti. Parce ouais. qu'on avait l'impression que ce mec-là, il était difficile à gérer. On sentait bien que Garcia avait un peu la trouille d'Evra. Bon,
il mettait une pression négative, ouais.
Voilà, il est parti. Bon, maintenant, moi, je dirais que Marseille, deuxième, personnellement, si on le fait, ça sera un exploit. Meilleur exploit que Nice de la saison dernière. Maintenant, qu'est-ce qui me fait penser qu'on peut finir dans les trois premiers? Je pense que Monaco, c'est pas que je pense, j'en suis sûr, Monaco n'a plus rien à jouer cette saison, plus de compétition européenne, donc ils vont se sentir libérés, malgré qu'ils ont perdu beaucoup de force par rapport à la saison dernière. Je pense qu'ils vont quand même finir deuxième, étant donné qu'ils sont libérés des compétitions européennes. Maintenant, Lyon, n'oublions pas que cette année, ils visent la Ligue Europa, et ils vont laisser beaucoup de force dedans, étant donné que la finale, ils vont la jouer chez eux. Moi, je pense que...
Enfin, la finale, ils vont la jouer chez eux. Calmez-nous un peu, ils sont pas en finale, quand même. Hein.
Samba, déjà aujourd'hui, Lyon, ils sont capables de finir deuxième. Parce qu'il faut qu'ils fassent un exploit à l'Atalanta pour finir premier. Donc, en finissant deuxième du groupe en Europa League, on le faisait la dernière fois, ils vont quand même jouer un gros, là, en huitième, en seizième.
Tu sais, l'année dernière aussi, ils ont joué l'AS Roma, ils ont cette petite part de réussite. Et je pense que déjà... ils vont laisser beaucoup de force en Ligue Europa. Donc, je pense aussi que ça va être difficile pour eux de finir deuxième, voire troisième. Moi, je miserais sur Monaco, mais je pense que Marseille, franchement, va finir troisième. Après, par rapport à ton avis tranché, Daniel, je te rejoins un petit peu. Ça sera un miracle de finir deuxième. Mais, on va dire, franchement.
Ouais, miracle, super performance, quoi.
Ouais.
Après, ce que je veux mettre en avant, vas-y. Aujourd'hui ils sont deuxième, il y a des choses à
on
corriger.
On l'a pas volé d'être deuxième, en fait.
Non, mais déjà, t'as rien volé.
Personne te l'a dit, ça.
Certains journalistes ont l'impression qu'ils l'ont. Que c'est un cadeau du ciel d'être là.
Mais non, attends, les matchs. Mais non, mais ça, c'est que les tocards qui ont jamais joué au football et qui te disent, ouais, ils ont 31 points au bout de 15 journées, je te dis que c'est un super bilan. Après, bien sûr qu'il y a des choses. On attend parfois plus et mieux, et c'est logique, de toute façon, voilà. Il y a une progression, moi je le note. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que, ce que tu peux retenir du voir des 31 points, c'est que cette équipe, elle lâche rien quand même. Elle a un état d'esprit digne de.
Je pense que le match révélateur, c'était le match de Nice. On perd chez nous. On est mené au score, on arrive à revenir et je pense que ça a été vraiment un match important et puis je pense que le collectif va s'appuyer sur ce genre de match-là pour le futur, quoi. Parce que quand on revient à Bordeaux, on arrive à égaliser miraculeusement contre.
J'aimerais quand même qu'on lise un mot de Payet, moi, si vous le voulez.
Attends, juste avant ça, je vais répondre à Sandar.
Je vais te dire un petit mot, moi, Payet, je pense que ce mec-là, je pense qu'il est perdu pour le football, quoi. Et je l'adorais quand j'étais super content.
Ça ne va pas devenir un problème dans la quête à la deuxième place, là?
On dirait qu'il s'est fait marabouter. Il a perdu son football. Il met plus un pied devant l'autre.
Écoute-moi, je veux bien que si.
Il y a un problème avec Payet.
Écoute, moi, je veux bien qu'on dise, Evra, ça a libéré le vestiaire. Apparemment, quand t'entends tous les mecs du vestiaire et tous ceux qui ont partagé des derniers vestiaires.
Mais c'est un superbe mec, Evra. Moi, j'ai des mecs qui le connaissent.
C'est pour ça, je pense que c'était pas un point noir pour Marseille. Surtout que Garcia avait réussi aujourd'hui à mettre à ma vie titulaire.
C'était un point négatif dans le sens que c'était difficile de gérer son temps de jeu.
Même sa personnalité, elle bloquait certaines personnes, on a su et tout.
Je voudrais juste dire
sur le parcours, Samba, cette équipe de l'OM, je sais pas comment t'as vécu ça en tant que supporter cette année, mais pour l'instant, il y a quoi? On a joué 15 matchs. En 15 matchs, elle a quand même déjà offert des moments assez, assez surprenants, quoi.
Notamment le match du PSG.
Et des matchs, j'allais dire.
Je me souviens bien que vous avez dit que notre charnière centrale, c'était des guignols. Que Rami Abdennour, c'était une catastrophe. N'oublions pas quand même que Rami, c'est un joueur international.
Samba, je me suis fait insulter pour l'avoir défendu sans arrêt.
Samba, déjà.
Mais je parle pas de toi, je parle de Jérôme. Jérôme, tu vois. Jérôme, tu t'avais allumé notre défense.
Comment j'ai allumé? Déjà, il y avait.
Jérôme avait sous-estimé l'effet Pamela.
J'ai pas fracassé la charnière. J'ai juste dit, rappelle-toi, si tu écoutes ce que j'ai dit, j'ai rigolé de la vitesse de Mbappé. J'ai dit, bon, si Evra est pris dans le dos, c'est pas grave. Rami derrière et après il y a Rami, il y aura Rolando. Excuse-moi de penser encore aujourd'hui, même après ce match qui a été un non-match du Paris Saint-Germain, il faut reconnaître Marseille a été bon dans l'intensité. Mais par contre là, le PSG. Non mais attends, laisse-moi finir Samba. Ce que je veux dire, c'est que sur.
Chacun son tour.
Samba, t'as rien mangé du tout. Le PSG a joué à deux.
Aujourd'hui, excuse-moi de penser encore que Mbappé. Il va trois fois plus vite qu'Evra, deux fois plus vite que Rami et de Rolando. Et je le dirai encore. Et c'est pas un problème. Et sur un match, ils ont été à la hauteur. Oui, bien, il n'y a pas de problème. Et ils ont pas fermé ma bouche. Quoi que tu penses.
Mais bien sûr.
Je pense encore la même chose sur Rami et Rolando.
C'est-à-dire sur un match.
Beaucoup de qualité face au jeu, sur l'adversaire, dans le combat et à l'agressivité. Il n'y a pas de problème. Par contre, les ballons dans le dos, je pense encore qu'il y aura quelques soucis d'ici la fin de saison.
J'ai même pas pu finir sur mes matchs rocambolesques de cette année, mais quand même Marseille, le match de Nice, le match contre Lille, le match contre Strasbourg, j'inclus même le match contre le PSG, ont eu des scénars quand même très étonnants dans leur issue, en bien ou en pas bien pour l'OM. Nice, Lille, Strasbourg, la façon dont ces matchs tournent, qu'ils obtiennent le nul, qu'ils gagnent les matchs, ou celui du PSG, peu importe la tronche qu'avait ce jour-là le PSG, l'intensité et ce qu'a voulu faire l'OM, c'était bien. Et ils sont pas récompensés. Il y a quand même des matchs qui ont tourné très bizarres pour Marseille, difficile à expliquer, à analyser. En même temps, c'est pas mal d'émotions, je pense, pour les supporters qui savent pas trop à quoi s'en tenir avec leur équipe, qui ont douté de certains joueurs qu'aujourd'hui ils félicitent, mais comme nous, parce qu'aujourd'hui, quand ils viennent certains dire mais t'as bien vu qu'on est meilleur, que tu dis ouais non mais même vous ne pouviez pas, personne, même les moins objectifs pouvaient comprendre ce qui était en train de se passer dans certains de ces matchs-là.
Dans quelques instants, Monaco, au programme, c'est la vie de Jérôme. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur Direct Studio également. A tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Gilbert Brébois.
Jérôme Rotten est là, Daniel Riolo également. On aura, bien sûr, le foot européen à 23h tout à l'heure. Simone Rovera, ce gros malin. Vu qu'il n'est pas qualifié à la Coupe du Monde, il s'est calé un petit Naples-Juve le jour du tirage.
Ouais, il a fait exprès.
Ils sont forts, les Italiens.
Il a appelé la Ligue, il a dit calendrier, vous me faites ça.
Vous me faites ça, comme
Naples,
ça le tirage.
Je sais pas s'il a perçu.
Demain soir.
Hop.
Donc il est à Naples.
Donc, non, il est là tout à l'heure avec nous.
Est-ce qu'on peut regarder ça plutôt que Dijon-Bordeaux?
J'ai croisé hier, il m'a fait de la peine. Hein,
entre Naples, Simonnet, Jules et Dijon-Bordeaux dirais,
il m'a fait de la peine. Il était bloqué hier au parc. Il ne voulait pas le laisser rentrer. Je suis passé.
Ah, bah les Italiens, c'est dur en ce moment.
Oh, Simonnet, viens, viens. Obligé de le faire rentrer et tout ça. Sinon, il restait à la porte.
Bon, il sera avec nous tout à l'heure. Allez, Monaco au programme maintenant. C'est l'avis du soir de Jérôme. Jingle Roten.
Combien de matchs j'ai perdu?
Coupe de la Ligue face à Auxerre, tu le perds. Mais... deux minutes avant, on nous dit ouais, j'ai envie de la gagner, la Coupe de la Ligue. 20 minutes après, Ntep, il nous met un but, on perd.
Bom. Ah, il est bon. Il faudrait le rappeler. Là, il nous manque, là, en fait.
On va te le faire revenir, si tu veux.
Bah ouais, de temps en temps.
Bon, alors, Monaco, tu veux dire quoi sur Monaco ce soir?
Bah, écoute, Monaco, hier, j'ai fait mon troisième point. Tu m'as activé, donc, et puis on n'est jamais revenu dessus, sur Monaco. On a même pas
parlé. Parce qu'à chaque fois, il fait ses trois points.
Exactement.
Et puis les deux et les trois, on les fait jamais.
Voilà. Voilà. Donc, toi, tu restes, sur le premier. En plus, c'était Paris. Hier, il y avait d'autres choses à parler, que de Paris, mais bon.
Ça, pour nous parler des acharnements, il est là, hein.
Voilà. Nantes, c'est Nantes-Monaco hier. Donc, déjà, de parler en bien de Nantes, parce que Nantes, mine de rien, ils sont là. Mais pour revenir à mon point, ouais, il m'inquiète beaucoup parce que ça fait déjà deux fois cette saison qu'il y a plus ou moins des crises de résultats à Monaco. Alors pas trois défaites de suite, mais il y avait eu quatre matchs en victoire avec des matchs de Champions League au mois d'octobre.
Ils ont eu une mauvaise période, très bonne période, et là très mauvaise période.
Et c'est plus là-dessus que ça m'inquiète, parce que ça peut arriver à toutes les équipes d'être moins bien. Et ça leur est arrivé au mois d'octobre, ça pouvait leur arriver maintenant. Mais là, ça fait deux fois en l'espace de un mois et demi, il y a une crise de résultats, trois défaites de suite, c'est une première depuis 2009-2010 au club. Donc c'est dire quand même qu'il se passe quelque chose, que ce groupe a du mal à réagir. Et c'est bien là-dessus, moi, ça m'inquiète, parce que outre les performances individuelles ou collectives, au bout d'un moment, t'as des scénarios de match, t'as une envie, t'as une grinta, quand tu prends un but, quand tu dois pas en prendre. Monaco l'a très bien fait sur les années Jardim, a même été étonnant par moment. On pensait que cette équipe, elle baissait un peu de pied, et Jardim a toujours trouvé des solutions pour retrouver de la solidité. On lui a même reproché au bout d'un moment. Aujourd'hui, ils sont pas flamboyants, ils sont pas spectaculaires, ils sont pas solides. Ils sont pas solides parce que les leaders de Jardim, bah, ils sont dans le dur. Jemerson, Glick, Fabinho au milieu, Moutinho, j'en reviendrai sur son cas personnel, mais c'est le leader de Jardim aujourd'hui, un des leaders, et Falcao devant, qui malheureusement là depuis son retour est un petit peu moins bien, mais bon, il est tellement exceptionnel depuis le début de saison que lui, je vais l'épargner. Plus une formule d'équipe qui prend pas, il y a des blessés, il arrive pas à changer, alors que ça a toujours été sa grande forme d'incorporer d'incorporer des jeunes à un moment où on les attendait pas, parce qu'il y a des blessés, parce que c'est les aléas d'une saison. Thomas Lemar est encore blessé, là c'était Sidibé qui était blessé, il y a d'autres joueurs là il s'est séparé du moins sur le match à Nantes, il laisse de côté donc Keita Baldé. Il laisse Falcao tout seul devant avec Moutinho en numéro 10. Ça fait, en revenant sur Moutinho, ça fait 3-4 matchs que Moutinho, il le met à cette place de numéro 10. Déjà, c'est pas un numéro 10. On est tous d'accord pour le dire.
Et tu sais que dans la période, je te coupe deux secondes là-dessus, dans la période, pas donc l'année dernière, grande saison, mais la saison d'avant, dans les mauvaises périodes, il le faisait également.
Exactement.
Et ça marchait pas.
Exactement.
C'est l'impression que c'est une sorte de pansement qu'il met là. Il sait pas comment faire. Il se dit que Moutinho va essayer de le sortir un peu du caca, mais il y arrive pas vraiment. Ça a jamais été la bonne solution.
Et tu vois, toi, tu me parles d'il y a deux ans, mais là, la première période où ils sont moins bien, je regardais les compositions d'équipe. Souvent, là, il y a un mois et demi, quand ils gagnent moins, Moutinho, il est dans l'équipe. Alors, soit des fois en numéro 6, avec Fabinho, mais ça, cette association, elle a du mal à fonctionner, de toute façon. C'est pour ça qu'il préfère le mettre un peu plus haut.
Oui, mais c'est quand même mieux Moutinho-Fabinho que Moutinho plus haut.
Oui, oui, oui. Non, mais c'est pour ça. Mmh. Mais après, vu que Moutinho, t'as l'impression qu'il faut absolument mettre Moutinho sur le terrain. Alors, je te dis pas que parce qu'il est portugais qu'il le met tout ça.
Moi, j'aimerais savoir ce qui bloque. Comment tu vois le truc, toi? Qu'est-ce qui l'empêche de remettre le 4-4-2? De tenter un truc comme ça. Il n'a pas les mecs.
Mais
c'est-à-dire, Keita, Baldé et Falcao devant. Lopez. Il faut que Lemar revienne.
Ouais.
Parce qu'il est Lemar, Rony Lopez et deux, quoi.
Écoute, je voulais en venir à ça. C'est que, aujourd'hui, il est bloqué de ce côté-là parce que t'as l'impression qu'il veut revenir au 4-4-2, même quand Lemar est blessé. Là, il a mis le petit Lopez à gauche. Ça va pas. C'est pas un joueur de côté. Rony Lopez, il faut qu'il arrive à rentrer sur son pied gauche côté droit. C'est là qu'il se sent le plus à l'aise. Alors après, lui aussi il doit gagner en constance, en régularité. On est d'accord.
C'est marrant parce que quand il jouait, il a été bon à un moment. Et puis en fait, il les installe pas, les gars.
Ouais.
Il les sort.
Parce qu'il est, il les rechange. Et positionnement, là, Ghezal est revenu, il jouait plus. Là,
Ghezal, il l'avait mis à la cave.
Ouais. Et là, il l'a ressorti, il l'a mis titulaire, mais il réécarte Keita Baldé.
Quand il joue, ça marche pas. Des masses,
regarde Keita Baldé sur le dernier match à domicile contre Paris. Il commence à faire Keita Baldé à droite. Et non, c'est pas contre Paris, c'est le match d'avant. En Champions League. En Champions League, quand ils perdent le dernier match contre
pas
Leipzig,
bon, la
il met Keita
Baldé
à droite, alors que normalement, côté gauche, avec Rony Lopez à droite, bah, les deux avec leurs faux pieds, ils vont peut-être rentrer.
Baldé, mais... je me demande si c'est pas un mec de 4-3-3.
Baldé, ça reste un bon joueur. Après, aujourd'hui, je pense que c'est le flou un peu partout. Les joueurs commencent à perdre confiance. Et en plus de ça, Jardim est pas inspiré dans ses choix. Et il peut pas s'appuyer sur ses leaders qui tenaient l'équipe ces derniers temps. Donc là, c'est pour ça que ça m'inquiète. Parce
c'est
que là.
Ça, des essais, il en a fait un paquet.
Et tu
à
vas.
À trois derrière avec Radji.
Ouais, ouais.
Radji qui revient à droite et qui tient la baraque parce que je suis l'ancien qui tient le truc. Et puis après, ça va pas bien parce que quand même, malgré tout, il est vieux et il est plus très bon. Enfin, il en fait, hein. Il a l'impression qu'il met ça dans, à chaque fois, il met ça dans un pot, il remue.
Tu sais, il y a une façon de perdre les matchs. Hier, contre Nantes, tu sais que cette équipe, elle est solide. Tu sais que cette équipe,
Nantes,
elle va fonctionner.
Très rapidement, on avait compris que Monaco n'y arriverait pas dans ce match.
Non, mais c'est sûr.
Nantes, ils ont fait un super match.
Le pire...
Ils sont solides, super bien organisés. Ils mettent de l'intensité. C'est pas
non,
football champagne.
Oui, mais.
Mais qu'est-ce que c'est,
L'équipe de Nantes et les caractéristiques de Nantes et de la politique de Ranieri, ce qu'il veut mettre en place, c'est que lui, il veut un bloc bas, il veut bien défendre, il veut que ça parte vite, qu'on ressort vite le ballon et qu'on prenne des risques pour aller attaquer le plus vite possible. Bon, donc quand tu as cette stratégie-là...
Tu lui mettais trois joueurs de talent, mais de vrais bons joueurs dans l'équipe, il te refaisait Leicester, sans aller prendre le PSG,
mais il te refaisait
un coup à 3 ou 4 dans ce championnat.
Et sans aucun doute, mais sur le match d'hier, moi ce qui est inquiétant côté
Monégasque...
S'il avait
eu un Mahrez ou un grand buteur...
Non mais regarde, cette stratégie de Nantes, on la connaît.
Surtout.
La possession, ils s'en foutent. Hier,
ouais, bien sûr.
Quand j'ai regardé le match, parce que bon, j'ai pas eu le temps de tout voir hier soir, j'ai regardé le match aujourd'hui, et je me dis, mais même dans la possession, Nantes arrive à gagner la bataille de la possession face à ce Monaco-là. C'est là que je suis inquiet. Voilà.
À partir de quel moment on se pose des questions sur le recrutement? Ou alors on s'en pose pas?
Non, mais c'est pas un problème de
recrutement.
On va arriver à Noël.
Non, c'est pas un problème
moi,
de recrutement.
Je pense pas que ce soit ça.
Mais
t'as quand même un rendement. T'aurais pu attendre mieux de chacun. Attendre mieux de Tillman.
Non, mais c'est pas une affaire de qualité de mec. C'est l'alchimie qui est pas trouvée.
Oui,
c'est ça qui est pas trouvé.
Puis attends, moi c'est facile de parler comme ça, Gilbert, mais déjà.
Quand on parlait de l'OM avant et on disait de Luis Gustavo qui s'était imposé tout de suite comme un
taulier. Parce qu'il y a des joueurs, qui n'ont pas de temps.
Non, mais Luis Gustavo, c'est pareil. C'est un mec, c'est un trentenaire qui a connu
déjà,
qui a gagné la Ligue des Champions, qui a été titulaire au Brésil. Il est dans un poste où il peut s'installer vite.
Mais Tite, il n'a pas démarré le foot la semaine dernière.
Lui, on sait qu'il est toujours blessé. Tous les clubs où il est passé, on sait que c'est un joueur délicieux à regarder quand il est en forme, machin. Mais il est très souvent blessé.
Monaco, c'est un contexte à part. Tout le monde le dit. Tous les joueurs qui sont passés là-bas et ceux qui vivent là-bas, ils te disent que c'est un monde à part.
Monaco, c'est une saison de temps en temps.
Donc quand t'arrives un nouveau joueur, même s'il a beaucoup d'expérience, il y a des temps d'adaptation qui sont plus ou moins longs. Alors, il y a des joueurs qui vont mettre peut-être un an. Moi, des joueurs comme tu viens de citer, Tillmans, Baldé, tout ça.
Tillmans, il suffit qu'il soit rentré deux fois au casino ou au SAS.
Mais il faut leur laisser le temps. Ce que je veux dire, c'est que
Jérôme, il est arrivé à Monaco, il est allé deux fois au Jimmy's, c'était fini.
Pourtant, après, j'ai arrivé de trois, hein. Mais je me suis perdu pendant quatre mois. Je jouais les matchs, mais bon, je disais tiens, hop, putain, une petite soirée là.
Ce soir, je vais au SAS. Je vais aller au Jimmy's.
Ce que je veux dire, on rigole, mais c'est vrai que il y a personne pour te rappeler, pour te dire attention, la pression du résultat, la pression de ceci. Monaco, c'est un contexte particulier. Et ces joueurs-là, même si tu as de l'expérience, tu viens de grands clubs, il y a un temps d'adaptation. Donc, c'est pas. Moi, je veux pas mettre la faute sur les recrues, parce que je pense que les recrues, elles sont bonnes. Et en général, Jardim et son staff, ils travaillent très bien. Donc, ça, on peut pas leur reprocher. Mais c'est sur la colonne vertébrale, les leaders de Jardim, qui aujourd'hui sont plus dans le bon tempo. Et ils ont oublié les bases. Et les bases de cette équipe monégasque de l'année dernière, les années d'avant de Jardim, c'est l'agressivité, la concentration. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins agressifs qu'ils l'ont été. Et c'est pour ça que je suis inquiet.
Mohamed est là, supporter de l'ASM. Mohamed, bonsoir.
Bonsoir.
Salut, moi.
D'accord avec Jérôme ou pas?
Oui, je suis d'accord, mais pour moi, le premier problème, c'est Léonard Desjardins. Parce que, déjà, le 11 des départs, il a jamais été le même depuis le début de la saison.
Ouais, on l'a dit tout à l'heure, ça. Ouais.
Moi, je regarde un match de Monaco, je sais pas qui est-ce qui va débuter. Je ne sais pas. Devant, un coup, c'est Carrillo, un coup, c'est Baldé avec Falcao. Ensuite, on a des joueurs qui n'ont plus la tête à Monaco, comme Fabinho, il est méconnaissable. Fabinho et Thomas. Comment?
Non, c'est vrai, t'as raison.
Fabinho, mais j'ai l'impression de voir un joueur qui a plus envie de jouer à Monaco. Ensuite,
attends, Fabinho, quand même, rentrons un peu dans. C'est pas non plus une catastrophe ce qu'il fait.
Il est pas bon,
Fabinho. Quand tu vois ce qu'il était.
Excuse-moi, mais Fabinho, ce genre de joueur. Moi, je. Au d'un moment, il faut appuyer là où ça fait mal. Alors, ça fait pas plaisir à entendre, du moins quand t'es joueur, c'est normal. Mais on les a placés tout là-haut. Fabinho, avec tout le respect que j'ai pour sa saison dernière, il a fait une excellente saison. Ça a été vraiment la grande surprise. Il a été contacté par les plus grands clubs, dont le Paris Saint-Germain. Il a voulu y aller, il n'y a pas été, il est resté. Il n'est pas malheureux à Monaco non plus. Il faut pas me la faire à l'envers. Et en plus de ça, il a dû avoir un accord en disant voilà, on fait encore un an. L'année prochaine, on verra. Donc c'est l'accord, il est comme ça. Aujourd'hui, il a du mal à retrouver son niveau parce qu'il y a peut-être plein de problèmes. Il s'entend pas bien avec les joueurs avec qui il joue à côté de lui au milieu parce que t'es obligé d'avoir une équipe bien structurée. Peut-être que le rendement des joueurs un peu plus haut, le rend un petit peu moins bon parce qu'ils perdent plus vite le ballon. Et là, on voit beaucoup de lacunes de Fabinho. Mais après, personnellement, excuse-moi, il fait des erreurs techniques qu'il n'y avait pas l'année dernière. L'année dernière, il se faisait jamais prendre le ballon, jamais contrer, souvent des premiers choix, des premiers bons choix dans les premières relances, et surtout une vision de jeu digne de ce nom. C'est pour ça qu'on en a fait un des piliers de l'AS Monaco. Alors, aujourd'hui,
Mohamed n'a pas fini.
Non, mais c'est un des leaders, Fabinho. Eh ben, Fabinho, il est pas bon, et Monaco plonge parce que Fabinho, Glick, Jemerson, Moutinho et c'est tout, parce que le Falcao, je le mets pas dedans. Eh ben, ils sont moins bien.
Mais parce que Lemar est blessé, que c'était un maillon fort de l'année dernière aussi.
Il y a aussi Moutinho, franchement, moi j'en peux plus.
Ah ouais.
Parce que Moutinho, depuis qu'il est à Monaco, ça fait 5 ans, je crois. Il a dû faire 4-5 bons matchs.
Ouais, exactement.
Ah bah là, t'as Alex sur Twitter, sur le Instagram, s'élève, qui dit pour critiquer Moutinho, il faut au moins voir les matchs. Il est partout dans la récupération, il est irréprochable dans l'investissement.
J'ai toujours trouvé que vous étiez beaucoup trop sévère avec lui.
Comment il s'appelle?
Par rapport au match et surtout à la position qui est la sienne sur le terrain.
Attends, on va pas le plaindre non plus. Écoute.
Non, mais Moutinho, les bons matchs qu'il a fait, je les compte sur mes doigts.
Exactement. Moi, je les regarde, les matchs de l'AS Monaco aussi. Je peux te le dire, et certainement plus que certains. C'est un petit Moutinho depuis qu'il est là. Et il est exactement super protégé par Jardim.
Il est igno. C'est petit mutin.
C'est vrai. Mohamed, merci. Voilà pour Monaco. Non,
mais comment tu peux lire des tweets comme ça? Sans déconner. Ça me fout en l'air. Mais tu lis des tweets.
Calme-toi, Jérôme.
Nous sommes une émission de débat. Des tweets qui disent Jérôme Bretel est super.
C'est bon, c'est un fan club de Moutinho.
Il faut bien qu'il y ait des gens qui expriment une opinion différente.
Il est réprochable.
Elle existe, cette opinion.
Mais Moutinho, c'est une catastrophe. Le leadership qu'il a dans ce groupe. Leonardo Jardim le met comme une des valeurs sûres de ce groupe. Excuse-moi, il doit jamais jouer dans cette équipe actuellement.
T'es pas obligé de t'énerver pour
dire ça. Mais tu sais, Jérôme, il y a des tweets qui me.
Ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, tu devrais te battre pour qu'ils puissent s'exprimer.
Mais au moins qu'ils m'écoutent et au bout d'un moment, ils seraient d'accord avec moi.
Ah, tu te riolises, cher ami.
Bah bon. C'est vrai, c'est possible ça, par contre.
Mais oui, Jérôme.
Dans quelques instants, le tirage au sort de la Coupe du Monde. Juste avant, commission de discipline, attention, c'est tombé. Pas de sanction pour Fekir. Pour le maillot.
Voilà. Alléluia, heureusement.
Pour le maillot tendu devant la tribune.
C'est évident.
À Saint-Etienne. Saint-Etienne, deux matchs à huis clos, des parties basses des tribunes.
Bravo, monsieur Deneux.
Latérales. Non, pas latérales, les tribunes vers les buts. Voilà. Et puis Lyon, 2500 euros d'amende pour déploiement de banderoles. Voilà.
Est-ce qu'il est venu, Fekir?
Ah, je ne sais pas.
Il était là.
C'était Monsieur Deneux qui avait.
C'est toujours Monsieur Deneux
qui a fermé la tribune au Parc des Princes là, hier.
Oui.
Mais c'est la commission de discipline. C'était. Je sais pas. C'est aussi Monsieur Deneux qui fait les stands.
J'espère que les gens de la commission de discipline, qui sont très intelligents pour suspendre les terrains à cause de certains fumigènes qui font du moins la tribune, j'espère qu'ils sont venus hier et qu'ils ont vu que c'était un anti-football ce qui s'est passé. Parce que quand t'as une tribune fermée et que t'as un spectacle qui n'était pas exceptionnel hier, mais que t'avais une ambiance catastrophique parce que cette tribune était fermée,
Eh ben écoute-moi bien, quand t'es un joueur de foot, t'es un passionné de football, c'est un scandale. Donc arrêtez de fermer les tribunes pour des malheureux fumigènes d'avant-match.
A tout de suite dans l'after.
RMC, le super football show, l'after foot, Gilbert Brébois.
Ils sont là, Daniel Riolo, Jérôme Rotten. En attendant tout à l'heure, Simone Rovera pour l'Italie. En attendant l'after story, on va parler de jackpot ce soir. Et puis le quiz avec, je vous le rappelle, des bouquins à gagner et un maillot du Stade Rennais. Et ça, c'est pas rien. Donc 32-16, inscrivez-vous au quiz ce soir. Allez, tirage au sort de la Coupe du Monde, c'est l'objet de mon avis du soir. Jingle, moi. Le jackpot, messieurs dames.
Gilbert Brébois, il est là.
Nous avons décroché le jackpot. Et ben justement, je vous annonce un jackpot demain.
Bah évidemment.
Parce qu'en fait, j'ai fait mes petits calculs. Et vous savez que je suis spécialiste en chapeau.
Oui, alors là, justement, là, d'un coup, au début, j'ai dit évidemment, j'étais confiant. Mais quand t'as dit j'ai fait mes petits calculs les chapeaux, j'ai dit c'est mort.
Bah, je suis meilleur que toi en calcul, excuse-moi. Toi en calcul, t'es très mauvais.
Alors, soyons clairs à ce sujet. Évidemment, je suis plus nul que toi. Je n'ai jamais contesté ça.
Bon.
La grande différence entre toi et moi, c'est que moi, je n'essaye pas.
Alors, j'ai quand même fait mes petits calculs.
Toi, tu essayes et tu te plantes.
Et en fait, il y a globalement...
Qu'est-ce que tu dis, toi, Jérôme ? Est-ce que c'est mieux d'essayer et de se planter ou d'être nul, de le savoir et de pas tenter ?
Bah, moi, je dis qu'il faut toujours donner sa chance au produit. Tenter sa chance.
Ouais, mais moi, j'admets
nul,
vraiment
nul,
une carence.
Tu tentes pas.
J'admets la carence.
Alors, donc, je reprends. Ouais. J'ai fait mes petits calculs et je peux vous annoncer qu'il y a, voilà, 80% de chances d'avoir un groupe jackpot, messieurs-dames.
Ah ben, je suis absolument d'accord. Je l'ai dit chez Dugas tout à l'heure.
Et en fait, c'est très simple. Il y a un truc très simple qui détermine tout.
Bah, c'est truqué.
On a acheté
le tirage.
Il y a un truc très simple qui détermine tout. C'est que de toute façon, avec la France, il n'y aura qu'un seul pays européen. Donc, imaginons, scénario horrible.
L'Espagne.
Tu tombes l'Espagne. Donc derrière, ça veut dire que t'auras pas la Suède, t'auras pas le Danemark, t'auras pas la Serbie qui peut t'emmerder. Tous les pays européens, ils disparaissent. Donc, non mais très franchement, même avoir l'Espagne avec derrière deux petites nations, où est le problème ? T'es dans les deux.
Tu fais un ou deux, quoi.
Bah, t'es dans les deux, voilà. Tu tombes, je prends l'Uruguay. Bon, ce sera un mauvais tirage, l'Uruguay après.
Espagne et Uruguay ?
Non. Impossible, ça. L'Espagne et l'Uruguay sont dans le même groupe. Tu tombes l'Uruguay. Non, mais alors, il y a, évidemment, il est possible, parce que là, je vous fais un truc.
Uruguay, Islande ou Danemark.
Tu tombes dans les
20%. Top, quoi.
Oui, non, mais tu tombes l'Uruguay. Tu tombes l'Uruguay, la Suède, une équipe qui peut t'emmerder.
Suède, le Nigeria.
Le Nigeria qui peut t'emmerder.
C'est pas le top du groupe quand même.
Ça, c'est pas le groupe jackpot, messieurs-là. Mais là, c'est la configuration des 20% restantes. Donc, globalement, très franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour demain.
Parce que t'étais inquiet, toi? Parce que moi, j'étais vraiment pas inquiet du tout.
En fait, pourquoi? Parce que la France est tête de série. Si on n'était pas tête de série, là, évidemment, c'est pas la
même chose. Juste l'Espagne à éviter, c'est tout.
Mais excuse-moi, mais même si t'étais pas tête de série comme l'Espagne,
l'Espagne, Angleterre,
les jetons de quoi demain, l'Espagne?
Bon, l'Espagne, elle peut avoir les jetons de tomber sur l'Allemagne, peut-être. Puis après, pareil. Mais après, ils vont se qualifier.
Le Brésil, quoi. L'Espagne, ils ont peur de l'Allemagne et de Brésil.
Ah mais d'accord, mais après
et de la France, je pense qu'ils nous craignent aussi.
Mais après, chapeau 3 et 4, c'est du gâteau. Donc
c'est
tout va bien.
Jackpot, messieurs dames.
Bon, bah c'est du gâteau, donc tout va bien. Donc c'est truqué, c'est déjà les 8e de finale.
Vous êtes tous d'accord avec moi, en fait.
Bon, ok, demain soir,
t'as toujours une équipe surprise.
Demain soir, j'annonce les 8e, ok.
Écoute, moi je te dis, bon, t'as une équipe surprise.
Jérôme, et là demain soir,
l'équipe surprise du chapeau 3.
Non, Jérôme, mais pas là.
Tu
auras Ali Benarbi avec toi.
Écoute ce que je te dis.
Ali, demain, je t'annonce les 8e.
L'Égypte fera sensation. Chapeau 3.
Ah ouais.
Moi je te parie avec non. Ouais,
avec
tu paries avec moi que non. Même si ça l'a très bien et tout.
Non,
moi,
non
je
mais
avec
non. Ça fait longtemps.
Tu veux te faire un pari sur l'équipe qui fait sensation, vas-y. Façon Islande à l'Euro,
vas-y.
Ou façon
vas-y.
Quelle était l'équipe de sensation du dernier mondial? Aide-moi.
Ah bah la Colombie.
Non,
le Costa Rica.
Costa Rica.
La Colombie aussi.
Vas-y alors.
Colombie c'était pas
alors.
Alors attends, laisse-moi réfléchir. Une équipe qui fera sensation.
Du chapeau 3 ou 4 qui fera sensation.
On joue en Russie, hein, ça compte.
Bah, si la Suisse allait en demi, ça ferait sensation aussi. Bah, ça dépend comment tu quantifies la sensation.
Moi, je pense que la Suède peut être une équipe sensation.
Non.
Si.
Avec Zlatan.
Avec Zlatan.
Non, sans Zlatan.
Qui va dégager Toivonen sur le banc.
Eh bien écoute, moi je mise à nouveau sur l'Islande.
Qui a fait de très bonnes qualifs.
Bah, l'Islande.
Et dans un groupe qui n'était pas facile.
L'Islande, sensation. L'Islande, dans le groupe où ils vont être, ils vont tomber une des équipes du chapeau 1 ou 2.
Ouais, je pense
que ce sera surprise. Voilà.
Et une petite sensation marocaine ?
Ça, j'y crois pas trop. Je suis désolé, vraiment. Non,
non, zéro but encaissé en qualif. Hein.
Franchement, si.
Qualif, excuse-moi.
Non, si. Il y a une équipe africaine. Moi, je vois.
Toi, tu vois plus l'Égypte que le Maroc. Ouais. Tiens, on a Grégory qui est au 32.
Sénégal, j'aime bien.
Attention,
le Sénégal.
Les gars.
S'il y a une équipe en Afrique, c'est Sénégal. Hein. C'est là où il y a des bons joueurs.
Veille de tirage au sort. C'est toujours important d'avoir un prof de maths avec soi.
Bonjour, l'after.
Salut, Grégory.
Salut.
Mais on l'a tout le temps.
Alors sur les poules, juste comme une spécificité, c'est faut pas regarder que sur le premier tour. Ça dépend aussi de quelle est la poule qui est à côté de nous. Si on a on est dans la poule C et qu'on a l'Espagne dans notre poule et que dans la poule D il y a le Brésil, c'est-à-dire que le deuxième, bah potentiellement, a le Brésil en huitième.
Exactement. Et je vais même plus loin, Grégory. Il faut aussi regarder l'ordre des matchs. Parce que si t'as l'Espagne dans ta poule et que tu joues l'Espagne en dernier avec les deux qui ont déjà gagné leurs deux matchs, tu vois ce que je veux dire?
Ça, c'est vrai.
Bah, ouais. Sauf si tu veux éviter d'être deuxième, parce que t'as vu que dans le chapeau d'à côté, t'avais un gros.
Tu peux faire un petit biscotto avec les Espagnols.
Ah, mais tu fais un biscotto pour être un ou deux. Tu peux pas faire un biscotto. Tu peux pas faire faire un biscuit avec eux, puisque ni toi, ni eux n'ont envie d'être deuxième.
T'es même pas sûr de pouvoir le faire, parce que si l'autre groupe qui te concerne joue, par exemple, le lendemain de ton dernier match, il y a le calendrier.
Donc tu peux pas faire de biscuit.
Grégory, t'as fait des petits
biscuit,
calculs.
C'est quand les deux peuvent se qualifier.
T'as fait des petits calculs de proba, là?
Alors en fait, il y a quelque chose qui est quand même sur ce tirage-là. Au début, vont tirer le premier chapeau. Donc on dit que ça ne sert à rien parce qu'en fait, on va être dans la poule A, B, C, D. Ça change pas grand-chose. Mais en fait, si, ça peut changer beaucoup de choses. Parce qu'imaginons que le Brésil et l'Argentine soient dans les poules E, F, G ou H et que donc du coup, nous, on se retrouve dans une de ces poules E, F, G ou H en fonction de ce qui a été tiré avant. Même si l'Espagne et l'Angleterre sont encore au bout, ben nous on est obligé de prendre le Pérou, la Colombie ou l'Uruguay ou le Mexique.
Parce que
surtout Pérou, Colombie, Uruguay. C'est-à-dire qu'en fait le tirage de la Russie au début qui est dans la poule A, si eux
je suis désolé, mais là j'ai rien compris.
Mon objectif c'est de faire comprendre à Daniel.
Alors on reprend un peu.
C'est niveau CM1 en maths, Greg.
Vas-y, reprends un peu là ce que tu as dit là.
Alors au départ, la Russie. La Russie
démarre par la table de 5.
En fait, imaginons que la Russie, la Russie sera dans la poule A. La Russie, ils ont aucune contrainte au début parce qu'ils prennent l'Espagne ou le Pérou ou Colombie, ils n'ont aucune figure imposée. En revanche, imaginons que le Brésil et l'Argentine soient dans les poules E, F, G ou H. C'est-à-dire qu'il y aurait eu des équipes qui auraient été tirées avant. Et il faut que le Brésil et l'Argentine évitent le Pérou, la Colombie et l'Uruguay.
Enfin, tu l'as mal formulé, excuse-moi Grégory. Ils ne peuvent pas les prendre.
Ils ne peuvent pas, c'est ça.
Parce que c'est la même zone géographique.
Tu as le droit d'avoir un pays dans la même zone géographique.
Tu as le droit d'avoir deux Européens, mais tu n'as pas le droit d'avoir deux Sud-Américains.
D'accord.
Donc du coup,
il a déjà fait le tirage alors en fait.
Exactement.
C'est pour ça que c'est truqué.
Si la Russie prend un Européen.
Hein?
Si la Russie prend un Européen.
Oui.
C'est-à-dire que le Brésil, il leur reste plus que comme possibilité que quatre équipes.
Ouais. Oui.
Imaginons que le Brésil arrive en fait dans la poule F ou G. Il faudra garder en réserve des Européens pour eux, parce que si à la fin ils ont que trois équipes et que dans ces trois équipes.
En schématisant, le Brésil et l'Argentine ont plus de chances de tomber sur l'Espagne que la France.
Oui.
Voilà.
Hein? Et en fait, si la Russie prend un Européen. On évite, on a beaucoup de chances d'éviter l'Espagne.
Ça veut
derrière.
Dire qu'on est déjà en quart?
Non, ça veut dire que nous, on a de grandes chances, de choper une équipe sud-américaine.
Ouais, ben bah, Mexique.
Mais quoi, en huitième?
On a plus que 3 chances sur 8, en fait.
Voilà. T'as quoi, tu dis?
On a plus que 3 chances sur 8 de choper des Sud-Américains parce qu'il y a, de toute façon, il y a le fait qu'il y a l'influence. Ouais. Qui fait qu'on doit réserver au fur et à mesure du tirage peut-être des places pour des Européens
C'est Mexique ou Uruguay là,
le
sud.
Jackpot, messieurs dames.
Ou Pérou,
c'est demain.
Oh putain,
merci Grégory pour cet éclairage absolument parfait.
Et la chatte ça Dédé, tu vas prendre le Pérou.
Mais salut, Greg. En plus demain. Bon, c'est bon, il a les petites poupées dans les
Greg,
les
j'ai pas tout compris mais c'était super clair. J'ai un peu du mal là-dessus.
Dans quelques instants, l'Italie, et ensuite on y reviendra au jackpot.
À quoi ça sert d'essayer de comprendre ça avant?
On y va.
Mais qu'est-ce que ça peut
foutre de
comprendre
et
d'essayer de comprendre ça avant?
RMC, le super football show, l'After Foot.